les soirs, Bel RTL vous offre toute la musique que vous aimez.
Bonus track.
Bonus track. Éric Jean-Jean.
Jusqu'à 22h sur RTL.
Bonsoir, c'est mercredi aujourd'hui et on est là jusqu'à 22h avec évidemment Vincent Perrault qui nous parlera de cinéma. Gros focus sur ce qui pourrait aussi être un immense film s'il était encore fait aujourd'hui. Tommy des Who. Pour commencer cette émission, on s'est dit qu'on allait se replonger dans notre adolescence. Et rien de mieux que Patrick Bruel pour l'adolescence. Extrait de l'album Alors Regarde en 89, il y a Cassé la voix, je te le dis quand même, etc. Et puis il y a cette chanson qui à l'origine a été écrite pour la télévision.
Il y a du soleil plein la télé, il y a une photo et de la beauté, le rendez-vous de la journée.
T'as mis quelque chose ou pas? Ouais, Patrick Sabatier. En fait, on est au début de l'année 1989, en pleine Bruelmania. Patrick Sabatier, donc, reçoit Patrick Bruel pour l'émission Avis de Recherche et il lui demande de composer une chanson sur ses années lycée. Ça va donner ça.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Éric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. Changer, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu te marres toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. Comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mortel, une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et bah c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on est tard, c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. C'est à droite. Attendez-moi. 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 C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas.
grands hommes, des grands hommes.
Tout part d'une histoire vraie.
Des grands hommes.
Il avait repensé à cette promesse faite avec ses potes au lendemain du bac, place du Panthéon.
Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans.
Alors Patrick parle à son vieux pote, comédien, Bruno Garcin, rencontré une vingtaine d'années plus tôt au Club Med, et tous les deux vont écrire cette chanson en moins d'une heure, Place des Grands Hommes, qui fait référence évidemment à la place du Panthéon, au fronton duquel est inscrit « Aux Grands Hommes, la patrie reconnaissance », voilà, au bout de la rue Soufflot, le quartier latin, à proximité du lycée Henri IV, où Patrick, justement, était élève. Il va interpréter la chanson pour la première fois sur le plateau David Recherche en 89, devant ses potes de classe, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le principe de retrouver des copains de classe, cette émission de télé. Alors Gégé, Marco, Laurence, Pascal, évoqués dans la chanson, sont vraiment des potes de lycée de Patrick, qu'il utilisera d'ailleurs dans d'autres chansons, par exemple pour La Vie. Il y a cette bande de copains qui suit comme ça et qui le suivent dans différents albums. Voilà. D'ailleurs, il y a un nouvel album qui arrive. Peut-être il y aura une chanson pour ces copains-là. On verra ce que ça va donner. Bruel donc sur RTL et Tommy arrive dans quelques petites secondes.
Bonus track.
Bonus track.
Éric Jean-Jean jusqu'à 22h sur RTL.
Écoutez ça. Tommy, bien plus qu'un album, c'est probablement le premier opéra rock, en tout cas le premier opéra rock revendiqué comme tel de l'histoire de la musique. Alors pourquoi un opéra rock ? Bah, parce que chaque piste est un chapitre de la même histoire, celle de Tommy, un garçon devenu aveugle, sourd et muet, après avoir été témoin d'un meurtre et qui va devenir un célèbre champion de flipper avant de finir par recouvrer ses sens et se transformer en une sorte de gourou, puis être finalement rejeté par ses adeptes. Ce sera notre focus du jour. Tommy, des roues. Alors pour vous remettre dans le contexte, en 1969, hein, au moment de la sortie de Tommy, les Who font partie des groupes les plus influents du Royaume-Uni et du monde. Ils ont marqué les esprits 5 ans plus tôt avec leur premier album qui contient cette hymne rock, My Generation, presque du punk avant l'heure. Musicien de génie, on va pas se mentir, hein. Pete Townshend, leader et guitariste du groupe. Roger Daltrey, c'est le chanteur. John Entwistle, c'est le bassiste. Et Keith Moon, le formidable batteur. À eux quatre, ils représentent ce qu'on va appeler la ligne rageuse du rock. Ils cassent leurs guitares, démolissent les studios, bref, l'antithèse des Beatles. Sauf que Pete Townshend, il aspire à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il se met à écrire Tommy. Il veut pas d'une collection de singles, il cherche à créer une œuvre plus cohérente. Et c'est comme ça que l'idée d'un album concept va commencer par lui trotter dans la tête, jusqu'à ce qu'il la mette en œuvre. Et c'est lui qui va écrire et composer la plupart des chansons de Tommy, s'inspirant parfois de certains de ses propres traumatismes d'enfance, on y reviendra. Alors l'album, il s'ouvre avec ce que vous écoutez depuis tout à l'heure. Aventure. Chanson presque entièrement instrumentale qui reprend certains des thèmes, hein, qu'on va découvrir tout au long de l'album, un peu comme un véritable opéra en fait, hein, parce que Pete Townshend va vraiment utiliser les codes de l'opéra pour son œuvre rock. Voici maintenant It's a Boy. C'est la chanson qui annonce la naissance de Tommy. Juste avant, on a appris que son père, le capitaine Walker, militaire anglais envoyé au front pendant la Première Guerre mondiale, est porté disparu. La chanson suivante place l'histoire en 1921, trois ans après la fin de la guerre. Le capitaine Walker réapparaît. Alors il rentre chez lui, sauf qu'il découvre que sa femme a pris un amant. Fou de rage, il tue son rival sous les yeux de son fils.
What about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw it all.
Il a tout vu.
You didn't hear it, you didn't see it. You won't see nothing, no one ever in your life. You never heard it, how sad it all seems without any proof.
You didn't hear it, you didn't see it, you won't say nothing to no one. Tu n'as rien entendu, rien vu, tu ne diras rien à personne. Cette phrase qu'on entend dans les paroles de la chanson, c'est celle que les parents de Tommy vont lui marteler ce jour-là pour qu'il oublie ce qu'il vient de voir. Et c'est cette phrase-là qui va déclencher chez lui une réaction extrême. Le garçon devient subitement sourd, aveugle et muet. Autre titre clé de cet album, tiré d'un poème de Pete Townshend, elle nous amène dans un voyage initiatique dans l'inconscient de Tommy. Vous entendez ce petit son ? Le petit son strident derrière, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette chanson s'appelle Amazing Journey. Dans une sorte d'hallucination, lui apparaît un type avec une longue barbe grise, une espèce de gourou. Et Tommy découvre alors qu'il peut transformer ses sensations en musique. Écoutez le jeu de batterie de Keith Moon derrière. Et le petit son strident dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on entend un petit peu, mais plus loin cette fois-ci, pendant que je suis en train de vous parler, bah c'est un son qui va participer pour beaucoup au côté onirique de ce morceau, hein, une note de piano jouée à l'envers. Bah oui, parce que faut rappeler qu'à l'époque, on est vraiment dans l'expérimentation des sons. On pense aux Beatles, aux Beach Boys, c'est vrai, même si on les oppose souvent, il y a dans les groupes de la fin des années 60 une recherche perpétuelle d'expérimentation. Retour à l'histoire. Alors, l'histoire se poursuit à mesure que les morceaux se déroulent. On a fait le choix hein, de pas vous passer des extraits de chacun des titres pour avoir un peu de temps pour écouter plus longuement certains chefs-d'œuvre hein, qui composent cet album Tommy. Parce que Tommy, c'est quand même 75 minutes de musique et 24 morceaux. Alors, l'histoire donc, on apprend que les parents s'inquiètent pour l'avenir de Tommy. Bah oui, c'est quoi son futur ? Il peut pas voir, il peut pas entendre, il peut pas parler et il ne peut pas prier. Alors on va essayer de le guérir. D'abord en rencontrant une sorte de gourou dans une secte, et puis un petit peu plus tard, une gitane. C'est le titre Acid Queen. Bon, encore une fois, le jeu de batterie de Keith Moon, il est dingue sur ce morceau. La reine de l'acide. Alors la reine de l'acide, elle pense qu'elle va pouvoir guérir Tommy en lui donnant du LSD. Bien sûr, Tommy expérimente cette drogue hallucinogène. Mais ça marche pas. Plus tard, Tommy est confié à son oncle Ernie, qui profite de son handicap pour abuser sexuellement de lui. D'ailleurs, un peu plus tôt dans l'histoire, c'est son cousin Kevin qui avait martyrisé le pauvre Tommy. Pourquoi ça d'ailleurs ? Parce que vraisemblablement, Pete Townshend a vécu les mêmes choses quand il était enfant. Un souvenir qu'il avait refoulé pendant des dizaines d'années et qu'il a révélé dans ses mémoires. Et on arrive au morceau le plus célèbre de cet album. Il est derrière moi. Pinball Wizard. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf dumb blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counts as far. That deaf dumb blind kid sure plays a mean pinball. Dans les paroles, le narrateur est devenu champion de flipper. Et c'est lui qui raconte comment il a été impressionné par le talent de Tommy pour ce jeu. Malgré ses handicaps, Tommy remporte haut la main toutes les parties, sans que ça lui demande un effort particulier. En fait, cette chanson, il y a une anecdote géniale autour de ce titre. C'est une chanson que Pete Townshend a rajoutée à l'album pour des raisons quasi commerciales. En effet, il avait besoin que son projet d'opéra rock soit soutenu par la critique. Et pour ça, il a eu l'idée de faire de Tommy un champion de flipper. Et vous savez pourquoi ? Parce que le flipper était le jeu préféré de Nick Cohn, l'un des critiques rock les plus influents du pays. Histoire de se le mettre dans la poche. Et ça a marché. I thought I was the body table kid. Bon, faut revenir à l'histoire. Tommy est maintenant devenu célèbre grâce à ses talents au flipper. Et les parents continuent désespérément de chercher un moyen de soigner leur fils. Alors, ils rencontrent un médecin qui leur apprend que le problème de Tommy n'est pas physique, mais que tout est dans sa tête. Comme s'il était fermé au monde extérieur. D'ailleurs, il passe le plus clair de son temps à fixer un miroir sans même remarquer, derrière lui, la présence de sa mère. Et c'est ça qui va rendre dingue celle-ci. Et à un moment, excédée, elle brise le miroir. Et en brisant le miroir, elle sort Tommy de sa prostration et le guérit instantanément. À partir de là, dans l'histoire, de champion de flipper, Tommy a atteint le statut de gourou. Sa guérison miraculeuse attire de nombreux adeptes qui veulent le toucher, le rencontrer, assister à ses sermons, comme dans ce titre, I'm Free. De réalité. Je suis libre et j'attends que tu me suives. Ce titre sortira en single d'ailleurs, tout comme Pinball Wizard. Thompson a raconté s'être inspiré d'une chanson des Stones pour l'écrire Street Fighting Man qui est sortie juste avant sur l'album Beggar's Banquet. Et on arrive à la dernière chanson de l'album. Tommy tente d'illuminer ses nouveaux adeptes. Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play. Your earplugs, put on your eyeshades, you know where to put the cork. Alors voilà, il les accueille, hein. C'est ce qu'il dit au début de la chanson, vous avez peut-être compris l'anglais. Sauf qu'il leur impose un régime très dur, il leur demande même de devenir sourd, muet et aveugle pour arriver à atteindre l'éveil, l'illumination spirituelle comme il le dit. Bah, évidemment, parmi les adeptes, la révolte commence à gronder et on l'entend petit à petit. We are not gonna take it, we are not gonna take it. Et c'est de plus en plus fort dans la chanson, jusqu'à ce qu'évidemment ses disciples décident d'abandonner Tommy, le laissant seul. Et c'est là qu'arrive la deuxième partie de la chanson qui s'appelle See Me, Feel Me. See me, feel me. Regarde-moi, ressens-moi, touch me. Atteins-moi, guéris-moi. C'est un thème qu'on entend à plusieurs reprises dans le disque, comme pour illustrer un sentiment de solitude. Ça va plus loin que ça, parce que c'est aussi un moyen pour Pete Townshend de rendre hommage à son maître spirituel qui vient juste de mourir, Mehar Baba, gourou indien très influent à l'époque. C'était aussi le conseiller de Gandhi. Et qui va avoir une énorme influence sur Pete Townshend. D'ailleurs, c'est un peu de ses enseignements qu'on retrouve dans ce texte. Mehar Baba, qui avait fait vœu de silence et qui l'a maintenu pendant 45 ans. D'ailleurs, le titre Baba O'Reilly, toujours des roues, est inspiré de Mehar Baba. Rapid.
story.
Pour conclure sur ce disque, il faut aussi parler de son accueil à sa sortie. Certains vont y voir un chef-d'œuvre, d'autres ressentiront un certain malaise et le trouveront malsain. Ce serait d'ailleurs un temps censuré par la BBC. Mais bon, quoi qu'il en soit, les titres extraits en single connaîtront un gros succès comme Pinball Wizard ou encore ce qu'on vient d'écouter, See Me, Feel Me. Et le groupe va partir en tournée pour une tournée mémorable, histoire de présenter son œuvre sur scène, j'ai même envie de dire son chef-d'œuvre. Une tournée qui passera par Woodstock, l'île de Wight. Et c'est aussi à l'occasion de cette tournée qu'ils enregistreront un concert historique, live at Leeds, considéré comme beaucoup, par beaucoup, comme probablement le meilleur live de toute l'histoire de la musique rock. Et puis quelques années plus tard, en 75, Tommy va devenir un film génial, qui reprend l'histoire et les chansons de l'album avec une distribution de malade. Écoutez bien, Elton John, ça c'est le champion de Flipper. Clapton, le gourou de la secte qui tente de guérir Tommy au début. Le méchant oncle Ernie, joué par Keith Moon, le batteur lui-même. Jack Nicholson qui joue le médecin qui découvre le problème de Tommy à l'intérieur de sa tête. Et celle qui joue Acid Queen, la gitane qui donne du LSD à Tommy pour le soigner, c'est Tina Turner. Bref, c'est énorme. On laisse encore un peu tourner, juste pour le plaisir. Je sais pas si vous avez reconnu, mais là, on a rejoué l'intro. Et si vous avez suivi tout ce focus, bah, toutes les musiques que vous entendez se succéder dans l'intro sont dans l'opéra rock. Allez, une pause.
Venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts. Serveuse dans le diner à coups des beaux motels. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse. Scénariste. Ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Quelle que soit la tendance, pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent, pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent, sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Eric Jean-Jean, jusqu'à 22h.
Je me regarde à vous quand j'entends le générique, parce que vous savez que désormais on est filmé, vous pouvez voir sur les réseaux de Vincent, sur l'Instagram de Vincent. Moi je les mets en relais, mais c'est chez Vincent que ça se passe. Les séquences justement de Vincent Perrault le mercredi.
Voilà, vous allez sur Vincent Perrault officiel et vous voyez tous les documents que j'apporte à chaque fois, les 33 tours, les 45 tours, exactement. Les visuels.
Exactement, donc voilà. Donc maintenant je me suis vu l'autre jour, j'avais une sale gueule, je fasse attention à moi. Bon bref, bonsoir Vincent, de quoi on parle ce soir?
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Nous allons faire un petit bond de 20 ans en arrière avec le film que personne n'avait vu venir. Nous sommes le 17 mars 2004 et sort sur les écrans un film un peu atypique avec des gamins qui chantent et qui allait devenir le plus gros succès du cinéma français de l'année et un des plus gros succès de l'histoire du cinéma français. 8 millions et demi d'entrées, ça fait 20 ans et pour en parler avant de donner le titre, il suffit d'écouter ça et on a tout compris.
20 ans, je viens de prendre une fessée quand même.
Là. Eh oui. 20 ans, presque jour pour jour. Le film de Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, Cadmerade, Jean-Baptiste Monnier, évidemment. Et en plus, Les Choristes ressortent en salle 20 ans plus tard dans une copie restaurée. C'est une bonne façon de le redécouvrir. Alors, vous vous souvenez tous que c'est l'histoire d'un surveillant dans une institution pour enfants un petit peu difficile et qui essaie d'éveiller les gamins en constituant une chorale par le biais de la musique et de la chanson. Mais il faut quand même se souvenir que 59 ans plus tôt, eh bien, ça avait fait l'objet d'un autre film qui s'appelait La Cage aux Rossignols. Et je crois que c'était pas mal d'en faire un remake parce que à l'époque, ça sonnait comme ça, c'était un peu vieillot. C'était les petits enfants de la Croix de Bois.
Ah bah oui.
À l'époque, eh bien oui.
Il y avait des acteurs connus dans ce
et,
film.
Bah, c'est-à-dire qu'il y avait Noël qui était acteur, metteur en scène, chansonnier, qui était accessoirement mon parrain. Je vous le dis au passage. Bah si.
Ouais, génial.
J'étais le filleul de Noël pour des histoires personnelles que je ne vais pas vous raconter ici. Et il se trouve que La Cage aux Rossignols avait été un très gros succès, avait presque 5 millions d'entrées à l'époque.
Ah, je ne reviens pas.
Et oui, c'est pas rien. Hein. Et là,
ton parrain.
Mais oui, avec mon parrain, exactement. Et puis, il se trouve que Christophe Baratier, quand il a voulu faire son premier film, bah, il s'est adressé à son oncle, qui était Jacques Perrin. Lui, Christophe Baratier, il faut savoir qu'il est musicien, c'est un excellent guitariste, il a même eu obtenu un diplôme au Conservatoire National de Musique de Paris, hein, quand même.
Oui.
Et puis la production, il a appris sur des films comme Microcosmos, Le Peuple Migrateur, Himalaya, des films dont toutes les musiques ont été signées par un certain Bruno Coulet. Exactement. Donc quand il a voulu faire son premier film, bah, il a su directement à qui s'adresser et il a appelé Bruno Coulet. Seulement, il y avait quand même quelque chose d'assez étonnant et c'était un challenge difficile. Parce que Christophe Baratier, lui, il écrit les paroles des chansons. Bruno Coulet fait la musique. Seulement, voilà, ce qu'il faut, c'est arriver à faire des chansons qui soient... D'abord, écrire pour une chorale d'enfants, c'est pas si simple. Hein. On fait pas ce genre d'exercice tous les jours. Mais il faut que les chansons soient d'assez bonne qualité pour avoir la tenue pour passer à la radio. Mais en même temps, et Bruno Coulet m'avait expliqué ça, il faut écrire pour Mathieu, qui est un amateur. Donc, il faut pas que ce soit non plus trop savant, parce que sinon, ce sera pas crédible. Mmh. On pourra pas se dire que c'est un amateur qui a réussi à écrire des choses aussi performantes.
J'ai compris.
Et donc, ça, c'était tout l'enjeu de la chose. Alors, il y avait déjà une chanson qui s'appelait « Cerf-volant ». Je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était très joli. Et ça change un peu de La Cage aux Rossignols quand même, hein. Là, ça s'est un peu modernisé. Et alors cette fois-ci, ce sont les Petits Chanteurs de Saint-Marc, dirigés par Nicolas Porte, qui est une chorale qui existait déjà, avec en soliste celui qui en a fait chavirer des cœurs de jeunes filles avec ses beaux yeux et sa voix magnifique, Jean-Baptiste Monnier, qu'on découvrait à cette occasion. Et non seulement le film a été un triomphe, mais ça a été un triomphe discographique également, à une époque où la mode des chorales d'enfants, c'était même un peu désuet, on pensait même que c'était un petit peu ringard. Mm-hmm. Mais voilà la chanson qui a fait toute la différence, le fameux « Voix sur ton chemin ».
je passerai cette chanson à la radio.
J'allais te dire, à part moi, de la country music, de l'opéra, des chorales d'enfants, qui a pu te faire passer tout ça dans Bonus Track?
Personne. Je sois clair, personne.
Mais je crois qu'il faut vraiment se souvenir que ce film a été un véritable phénomène, avec, je le rappelle, plus de 8,5 millions d'entrées en France. Et puis surtout, là où ça a été très profitable, c'est que ça a remis au goût du jour et ça a donné à une tonne d'enfants l'envie de chanter. Il y a eu, moi je me souviens, sur TF1 à 20h50, les 100 plus belles chorales, etc. C'est vrai. Enfin, c'est un truc qui n'avait jamais existé. Ouais. Et ça a redonné une espèce de noblesse au plaisir du chant pour les enfants. Et pas que pour les enfants d'ailleurs, parce que les chorales, ce ne sont pas que les enfants. Et comme 20 ans ont passé, eh bien, aller au cinéma pour redécouvrir ce que tout le monde avait acheté en DVD à l'époque, Les Choristes, avec une copie restaurée, eh bien, je crois que pour la toute jeune génération, y aller en famille, c'est une bonne façon de faire redécouvrir le film.
Bien monsieur, c'était Vincent Perrault. La semaine prochaine, on laisse planer le doute.
Eh bien, je ne dirai rien cette fois. Motus et bouche cousue, tu ne m'auras pas. Surprise.
Allez, on enchaîne.
Ciao.
Bonus Track. Éric Jean-Jean.
Sur RTL. Bonus Track. Éric Jean-Jean.
Bonus Track. Sur RTL. Bonus Track.
Je ne sais pas comment il fait pour être avec nous aujourd'hui. En tout cas, il est là et c'est la bonne nouvelle. Bonsoir, cher Yvan Cassar. Comment ça va?
Bonsoir, Eric. Trop content d'être là.
Merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer. Parce qu'en fait, je vous explique. On est tombé, Perrine, qui produit cette émission, et moi, sur un article intitulé « Comment TikTok est en train de tuer le pont musical ». Et en gros, il est expliqué dans cet article, et tu me diras ce que t'en penses, Yvan, que comme désormais, on prend des versions courtes des chansons pour illustrer des images que l'on fait sur les réseaux sociaux, bah, les chansons, plus ça va, plus elles sont courtes, et plus c'est couplet-refrain. Et il n'y a plus ce fameux pont. Alors déjà, expliquons à nos auditeurs ce que c'est qu'un pont, Yvan.
Bah, c'est vrai que maintenant, on va toujours sur un couplet, un refrain, on veut être efficace dès la première seconde, alors qu'il y a quelques temps, on prenait le temps. On prenait le temps de s'installer. On faisait un couplet, on racontait un refrain, puis un deuxième couplet, puis un deuxième refrain. Et puis là, on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer? Et bien justement, il va se passer un pont. Le pont, c'est quoi? C'est l'inattendu, c'est la surprise. Voilà, c'est la belle chose qui arrive. Et donc, c'est mélodique, c'est une surprise rythmique, c'est une surprise harmonique, c'est-à-dire les accords, c'est une ambiance, c'est la manière de parler, c'est un nouveau texte, un nouveau son, des chœurs. Il y a mille manières de faire un pont, mais c'est vrai que c'est délicieux. Et pour créer de l'émotion sur un temps donné, une chanson, c'est 3-4 minutes, il faut absolument trouver des clés. Et c'est une des belles clés pour avoir de l'émotion quand on écoute une chanson.
Alors, illustration par l'exemple, parce que Yvan est arrivé avec plein d'exemples à nous. On va commencer par un exemple que tu portes sur scène en ce moment, et avec lequel tu as beaucoup travaillé. Et quand je parle de lui en disant que c'est un exemple, vraiment, ça prend tout son sens. Johnny Hallyday, la chanson s'appelle « L'envie ». Écoutez. Ça, c'est le pont, ça.
On y arrive, c'est maintenant.
Il est fini.
Voilà, ça y est, c'est fini. C'était quoi? Alors là, c'était... On change de rythme, c'est un pont instrumental, parce que des fois les ponts sont chantés, mais là c'est que de la musique. On change de rythme, on introduit un nouveau riff, une nouvelle vibration pour finir encore plus fort. Donc c'est un espèce de conduit surprenant pour aller jusqu'à la fin en apogée. C'est du Johnny Hallyday.
Alors, autre superstar avec qui tu as aussi travaillé, je me souviens très bien de ce piano à Bercy notamment, hein. Mylène Farmer, écoutez. Ça, c'est californien. Là, on casse le rythme pour le coup.
Voilà, là, on est encore dans un pont instrumental. On est sur la même ambiance harmonique, mais on casse tout. On repart d'en dessous, parce qu'il faut forcément que ça soit un peu sexy là, dans cette chanson. Et là, on monte, la guitare vient d'arriver. On a progressé et on est en attente. C'est une surprise pour en attente, pour avoir le... Et c'est reparti sur le refrain. Donc, on s'est un peu nettoyé les oreilles, on a oublié, on est resté dans une ambiance et maintenant, on est reparti.
C'est génial. Tu fabriques un pont quand t'es en studio, comment ça se passe? Tu cherches quelque chose?
On cherche à surprendre et une petite accroche. C'est souvent un riff, une manière de présenter le rythme autrement, le pattern, une ligne de basse, un petit arpège de guitare. Voilà, on cherche un petit détail. C'est peut-être aussi en enlevant des choses, on mute des pistes et puis on se dit ah mais ça tout seul ça peut être intéressant, ça va avoir plus de relief, parce que quand on entend toutes les pistes en même temps, on est conquis, mais on ne sait plus qui joue quoi. Alors que de mettre en valeur un élément et de s'en servir pour créer quelque chose de nouveau, c'est aussi une approche.
Alors peut-être les pères de tous, ils s'appellent les Beatles, et y a une chanson, je sais que tu l'aimes et moi aussi, qui s'appelle The Day in the Life, dans lequel il y a pour le coup l'un des ponts les plus étonnants de l'histoire de la musique. On a appelé ça une montée chromatique, d'ailleurs tu m'expliquais ce que c'est. Écoutez, ça c'est la fin de la chanson, parce que c'est la deuxième fois qu'il arrive ce pont.
Là, on est dans le génie pur, on est dans la révolution, parce que c'est la première fois qu'un orchestre arrive comme ça dans une chanson, qu'il est aussi produit et donc chromatique, parce qu'on part d'en bas et on monte et on monte et on monte et on monte et on monte. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement, un double crescendo. On monte harmoniquement, musicalement, et on monte en puissance. Donc on est happé, c'est un monde qui arrive à toi comme ça, qui te frappe. Ça, c'est vraiment, cette idée, elle est vraiment extraordinaire. Mais les Beatles ont beaucoup lutté pour cette idée. Il a fallu même transiger. Si ce pont est là deux fois dans cette chanson, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait moins de musiciens, que ça coûte un peu moins cher et qu'il soit là deux fois. Donc ce pont, il est spécial parce qu'il introduit une liaison entre deux textes, les bouts de chansons entre les deux.
Qui sont totalement différents.
Voilà. Donc il a cette première fonction au début et à la fin, il a cette fonction de nous immerger dans un monde et de finir. Dire maintenant, c'est fini.
Là, en l'occurrence, j'ai dit que c'était le deuxième pont, non, c'était le premier que vous avez entendu.
Oui.
D'ailleurs, en parlant d'héritiers des Beatles, il y a le groupe Oasis, hein, qui eux aussi sont pas mauvais en pont. Écoutez, on est sur Whatever. Très influencé par les Beatles, là.
Terrible.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce pont?
La surprise qui est belle, c'est on module complètement, c'est-à-dire on change d'harmonie, c'est comme si on passait la porte, on ouvrait le rideau et hop, c'est un autre monde. Donc c'est un autre monde par l'harmonie, par les accords, ils chantent différemment, on est sur quelque chose de très continu, pom 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 pom, alors qu'on était très rebondissant avant, très Beatlesien avec le riff, ta ta ta, ta, ouais. Voilà, et là on est comme ça en mouvement et la batterie qui fait toutes les croches, boum gong gong gong. Donc il y a une rupture à tous les niveaux pour un crescendo. Et puis ça va s'arrêter et on va revenir. Ah, c'est fini. Et voilà, retour au calme. On a eu de la pression. Maintenant, on a envie d'un peu de calme et on va repartir sur le refrain.
C'est dingue.
Voilà. Tout simplement.
Attention, parce que là, le pont, il y a du chant et plein d'instruments. C'est pas un truc tout mou.
Non, non, parce qu'un pont, c'est pas forcément mou. C'est une surprise. C'est quelque chose d'inattendu. Donc, il y a des minimes manières d'arriver à ce résultat. Mais là, celui-là, je le trouve très, très beau parce qu'il allie tout. Mais parce que ça peut aussi dans le flow, dans la manière de parler, de chanter, il y a aussi des ouvertures écrites. Évidemment, les paroles sont différentes, on ouvre sur un monde à tout niveau. Et celui-là, il est quand même très très joli. Parce qu'une chanson, le but, évidemment, c'est d'être charmé, de retenir le refrain, mais sur un temps donné, de jamais s'ennuyer, de voyager. Et donc, ça nous aide.
Alors, on va quitter l'univers de la Britpop et de la pop tout court avec les Beatles pour cette fois-ci traverser l'océan et nous retrouver dans un tube planétaire avec l'album le plus vendu de l'histoire de la musique, Billie Jean, Michael Jackson et son pont musical. Ça, c'est le pont.
Et c'est reparti. Voilà, cette chanson, elle est sur la même ligne de basse pendant 3 minutes. C'est ça, tout le temps, tout le temps. Donc, un couplet, un riff, tabadabada, la guitare, le refrain de Michael, et bon, au bout d'un moment, on fait quoi ?
On se fait chier.
Voilà, on a beau mettre tout ça, tout est génial. C'est que des belles idées qui s'enchaînent à des belles idées, mais il y a un moment, il faut prendre une petite respiration, boire un petit coup. Et là, ce petit pont, il sert à ça. On ouvre, le rythme reste encore présent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des progressions de puissance, on reste fidèle. Voilà, on est dans la même dynamique, mais par contre, on ouvre avec l'harmonie. On fait ça, et après, c'est reparti. Toujours pareil, le temps d'oublier, et le temps de se relancer.
Est-ce qu'on entend derrière là? Est-ce que c'est considéré comme un pont?
Non, là, ça, on est sur la même harmonie que le refrain, et avec un petit riff, ça c'est ce qu'on appelle un riff ou un gimmick en français, cette petite trouvaille mélodique jouée à un instrument qui revient tout le temps et qui est lancinante, qui est dans ta tête. Ça, dans toutes les grandes chansons, il y a ça, cette petite accroche comme ça, et tabadabada, on entend pareil, ça revient tout le temps dans la chanson. Ça, c'est les éléments clés de l'arrangement de la chanson qui répondent à la mélodie.
Alors plus rock, il y a un groupe qui s'appelle Outkast et cette chanson que tu as choisie pour nous qui s'appelle Hey Ya. Ça c'est le pont. De cette partie musicale, Yvan.
Voilà, là on est, que ça soit la musique, le hip-hop ou la musique urbaine, évidemment on est sur un principe encore plus minimaliste parce que c'est le flow qui va faire la différence, c'est-à-dire la manière de chanter, de varier en quelque sorte. Donc on est sur souvent ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire les deux ou trois mêmes accords qui tournent, et donc toute la différence va se faire dans les mini-détails. Et là le pont c'est plus une cassure, c'est d'un coup il va un peu plus parler, on va changer deux, trois notes, on va rester avec de la batterie, c'est-à-dire les contrastes et la manière de changer la voix pour réveiller, pareil, parce que du coup on a moins d'outils sans les mélodies, donc là on essaye de trouver d'autres solutions. Et là ce qui est très joli c'est l'accroche, le fait que d'un coup il passe dans un flow un peu parlé, qu'on limite un petit peu l'harmonie pour avoir presque un beat juste que de la batterie en quelque sorte. C'est ce qui fait la cassure. À chaque fois il faut trouver selon l'esthétique aussi bien, chaque esthétique a sa manière de trouver un pont, évidemment. Dans la musique urbaine, c'est la manière de changer quelques mots, la manière de changer un rythme, une petite note, enlever un peu de basse et mettre juste la rythmique. Voilà, on trouve des artifices. Chaque musique a sa propre personnalité, bien évidemment.
Là, on va écouter un pont d'une chanson ultra célèbre choisie par nous sur RTL ce soir par Yvan Cassar, Englishman in New York, un pont d'harmonie. Exactement ce qui est en train de se passer.
Donc là, on est sur la chanson, toujours les mêmes accords, comme un petit reggae. Tout ça, ça fait 2 minutes. Le refrain et le couplet sont les mêmes harmonies, le même groove, pareil, tout est pareil, juste la voix qui change. Et là, c'est parti. On a ouvert la porte. On est plus doux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le relevé. On tient, les notes, les cordes tiennent. Encore plus sucré. Et on se dit, mais où ça va? Et là, ça va sur des effets, un solo, du jazz, changement de tempo.
Ouais.
Voilà. Donc, deuxième effet qui se coule. Et attention, on va revenir. Voilà. Du rythme comme ça, on se nettoie totalement les oreilles. La frappe, c'est le côté, c'est la ville, c'est New York. On est. Et puis. C'est reparti.
Génial.
Et on est reparti dans l'histoire. On revoit cet homme qui se balade dans New York. Voilà.
Vous avez prévenu, hein, après avoir bavardé avec Yvan Cassar, vous n'écoutez plus jamais les chansons de la même manière. A gentleman will walk but never run. Tiens, si on se faisait un dernier test, il nous en reste encore 2-3, j'espère qu'on a le temps d'aller jusqu'au bout. Par exemple, avec Peter Gabriel et Don't Give Up, une chanson chantée en duo avec Kate Bush. Explique.
Bon là, pure beauté cette chanson. C'est un duo. Le refrain est obsessionnel, Don't Give Up, toujours la même mélodie, cette basse extraordinaire de Tony Levin. Mais on est hypnotique, voilà. Voilà, on est toujours dans la chanson, deux accords, on revient, hypno. Voilà, elle chante, elle est là, c'est émouvant. Mais au bout d'un moment, on s'enfermerait. Et à un moment, il faut ouvrir, et là, il ouvre, c'est sublime, vous allez voir. D'un coup, il reprend la main, et l'harmonie change, tout en haut. Et là, c'est très sophistiqué. C'est une époque où on faisait des chansons très sophistiquées.
Ça.
C'est parti. Voilà, le piano arrive. On l'avait pas entendu.
Ouais.
Côté un petit peu rhythm and blues qui est quand même toujours là chez Peter Gabriel. Et là, ça devient l'emphase.
C'est quoi l'emphase ?
C'est-à-dire, cette espèce de crescendo mélodique, ça devient un peu plus, j'allais dire, lyrique. Voilà. Et lui, il va répondre. Il y va encore plus. Là, il est en boucle. Toute cette chanson qui était quand même très retenue sur la relation entre les deux. Enfin, on était comme ça. Et là, on ouvre. C'est le moment d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la porte, je trouve. Encore. On referme. Et là, j'aime. On passe. C'est reparti, le retour de la ligne. On revient au basique du début de la chanson. On revient à l'hypnotique. C'est-à-dire qu'on est parti, on a voyagé dans la tête, musicalement, émotionnellement, pendant 20 secondes. On a oublié ce magnifique riff de basse et cette mélodie. Et puis on revient, on se recentre sur les deux. Et voilà, sur elle. Et ce calme-là, si on n'avait pas eu tout ce pont avant qui nous maintient comme ça en tension, bah, on s'ennuierait un petit peu. Et là, on est tellement content d'être apaisé, de la entendre chanter sur cette espèce de calme absolu. Masterpiece.
Parfois, les masterpieces se cachent là où on les attend pas. On va terminer cette séquence avec In the Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Explique-nous ce qui se passe dans cette chanson à ce moment-là. Alors ça, c'est l'intro, évidemment.
C'est parce que ça, c'est une vraie balade à l'américaine, comme on les aime. Même nous, Français, on a beaucoup copié ce style.
Ouais.
Et donc, on commence, et on monte, et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. C'est cette espèce de crescendo. Donc là, on a deux chanteurs vraiment bien. Lady Gaga, pas si mal. Donc du coup, il profite. Bradley Cooper, il profite vraiment de sa puissance et du pouvoir, de cette sensation qu'elle peut te donner dans une chanson. Et on commence... On peut pas être plus simple, hein. C'est une guitare sèche et puis
ouais.
et puis petit à petit on va progresser, l'arrangement va s'étoffer jusqu'à ce pont qui va permettre d'amener au refrain de fin. C'est-à-dire que ça va être un conduit en crescendo pour dire bah vous voyez, on est coté comme ça mais on peut aller plus loin, et à la fin ça va être très fort mais on va pas vous mettre quelque chose de très fort tout de suite. Donc pour avoir ce sentiment de plénitude sonore musicale, on passe par ce pont.
On la laisse tourner, on commente dès que tu veux, Yvan. T'as le micro ouvert.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Voilà, on a commencé avec la guitare, puis on a ajouté le piano, la basse. On était bien, et maintenant il faut une surprise. Et là, on monte en haut vocalement. La composition est magnifique. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus d'instruments parce que c'est la chanson qui fait le travail. L'arrangement n'a rien à ajouter. Donc, on reste. Piano, basse, guitare. La surprise, les voix harmonisées. Un petit peu de guitare électrique très légère qui vient un petit peu stéréoifier, mettre un petit peu de profondeur à ça. On est plein. Là, on entend la guitare. Et voilà, on s'en va.
On y arrive.
Ça, voilà, on y est. D'un coup, tout a changé. On est parti à l'accroche. Le tome, la batterie, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle monte, la voix, formidable. Et voilà, la batterie est partie. Ce pont nous a amené, nous a conduit. Voilà, là on est sur l'autoroute, hein. C'est sûr, on est en Amérique. Normal. Là, il faut juste un petit accord posé parce que faut repartir sur l'émotion. Mais si on n'avait pas eu ce pont en crescendo, finalement, ce dernier refrain avec la batterie, la guitare, il aurait paru un peu vulgaire, un peu too much. On va dire, mais pourquoi ils sont aussi grandiloquents? Là, on est grandiloquent, mais ce pont, il a justifié cette émotion supplémentaire, cette manière de chanter en plus. Autrement, ils ont dit, oh là là, ils nous saoulent.
Bah voilà, passionnant, on aurait passé la nuit à écouter Yvan Cassar hein, sur RTL. Je reviens donc à la question que j'ai posée au début et à laquelle on n'a pas répondu pour l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui donc, Yvan, ces fameux ponts dont tu viens de nous parler sur RTL pendant un long moment, c'était passionnant, mais merci. Hein. Est-ce qu'ils sont en voie de disparition?
Oui, parce que... En fait, le problème, c'est que maintenant, il faut être efficace. On pense efficacité, le streaming, la TikTok, toutes ces nouvelles manières de consommer, d'écouter de la musique. Il faut être efficace tout de suite parce qu'il faut prendre le spectateur, l'auditeur, il faut le dire, viens. Et du coup, même, c'est à l'inverse. Beaucoup de chansons maintenant commencent par le refrain. Parce qu'il faut le truc accrocheur. Et combien on a d'exemples de jeunes qui sont tombés sur une petite accroche de refrain, et puis d'un coup, ce qui s'excite, il y a plein d'artistes qui s'excitent sur un refrain, puis ils connaissent pas du tout la chanson. Parce que maintenant, on est habitué, ces formats entre Instagram, TikTok, 15 secondes, 30 secondes, on est habitué à retenir les réels, voilà, 30 secondes et d'être pris par cette musique répétitive où on écoute ces 30 secondes en boucle. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que du coup, pour l'écriture, c'est un petit peu dur parce qu'on se dit, il faut que je sois efficace, il faut que je sois efficace.
Oui, mais c'est marrant, c'est un truc, tu m'expliquais ça avant qu'on commence l'émission et c'était passionnant. C'est-à-dire que c'est un truc qui, au début, c'était juste une histoire, une chanson, notamment en France. Voilà. C'est après que ça s'est rallongé.
Exactement. C'est-à-dire que quand on écoute les chansons des années 60, 70, en fait, c'est une petite histoire avec un petit pont, mais ça reste extrêmement concis et on n'est pas dans ce qui est devenu après presque l'overdose des refrains. C'est-à-dire qu'il y a pendant deux décennies, on a multiplié les refrains. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, alors il fallait que les gens retiennent le refrain. Mais on savait qu'on avait le temps, surtout à la radio. On avait 3:30, hein, ouais. La célèbre clé des 3 minutes 30 de la radio. En 3:30, il fallait qu'on ait fait 2 ou 3 refrains à la fin pour que quand on ait fini la chanson, eh ben les gens retiennent bien et aucune envie, c'est de réécouter à nouveau la chanson. Donc on a commencé petit. Et puis on s'est étendu sur la fin. Et puis maintenant, bon, la vie, c'est toujours ça.
Hein. Ah ouais. Cet homme est passionnant. Tu reviens vite. Hein.
Avec grand, grand plaisir. Bon,
je sais qu'il est très occupé. Vraiment, vous rendez pas compte hein, de l'effort que Yvan fait pour être avec nous. Arrête. Merci d'être venu. Reviens.
Merci à toi.
C'était Yvan Cassar sur RTL. On est très heureux d'avoir eu Yvan avec nous. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Caroline Dublanche prend le relais tout de suite après les infos. Et nous, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine dans Bonus Track. Ciao à tous. Ça va.